Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Aujourd'hui, rencontre avec Amina Mansouri.
Bonjour, je m'appelle Amina Mansouri. Je suis aveyronnaise depuis 2 ans et demi environ. Je suis à la retraite, j'ai 65 ans. Je suis membre du collectif Palestine 12 et de l'UJFP. J'ai rejoint le collectif Palestine 12 début novembre 2023. Je venais d'arriver dans la région. Je suis aussi membre de l'action et du mouvement Fin de justice en Palestine, dont je vais vous parler par la suite. Alors pourquoi j'ai rejoint cette action ? Je suis en présence d'Elisabeth Petit-Collin et de Nicole Lefeuvre, avec lesquelles je participe à des rassemblements depuis novembre 2023. Quand Pascal André m'a proposé de participer à cette action de grève de la faim, elle correspondait à un moment où, je pense comme beaucoup de gens d'ailleurs, les rassemblements ne me suffisaient plus pour exprimer, en tout cas, ma colère, et je sentais que je devenais quelqu'un de violent à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et en Cisjordanie, à Gaza en tout cas et en Cisjordanie. Et donc ce mode d'action, qui est un mode d'action non violent, m'a correspondu et en tout cas répondu à certaines de mes attentes. Donc je suis partie le 31 mars avec le docteur Pascal André, gréviste également, le docteur Khaled Ben Boukrif, qui est médecin également à Toulouse et qui est intervenu à Gaza. C'est un médecin spécialiste aussi en urgence, mais aussi en médecine de guerre. Et nous étions donc une troisième personne, donc Rizlaine, qui elle est une jeune cadre dans la finance de la région parisienne, qui elle également faisait la grève de la faim. Donc nous étions 4 grévistes et 4 jeûneurs. Parmi les 4 jeûneurs, il y avait aussi une autre aveyronnaise, Marie, sa fille aussi qui est étudiante à Montpellier, et Imane Marifit, qui est connue puisqu'on l'a beaucoup vue sur les réseaux, c'est une infirmière qui est allée à Gaza. Nous avons parcouru pendant 25 jours 18 villes, de Marseille à Bruxelles, avec l'objectif d'ouvrir, en tout cas d'essayer d'ouvrir les lieux de silence, parce que ce qui nous a tués tous un petit peu à petit feu, c'est comment le drame et de la catastrophe que subissent les Palestiniens depuis longtemps, mais en tout cas depuis octobre 2023, est passée sous silence en France et en Europe d'une manière générale. Donc on a essayé de taper à différentes portes pour essayer d'ouvrir un peu ces zones de silence. Parmi ces zones de silence, on pensait aux lieux cultuels, aux lieux culturels, et bien sûr aux politiques et aux médias. Donc à Marseille, au niveau politique, nous n'avons rencontré personne. L'ancienne maire avait dit qu'elle nous rencontrerait, mais sans doute dans une autre vie, puisque nous ne l'avons pas vue. Nous avons quand même été accompagnés par un élu écologiste pendant notre accueil sur les 2 journées à Marseille. Au niveau culturel, nous n'avons pas eu de porte ouverte dans les églises de Marseille, et Dieu sait qu'il y en a. Depuis, les choses ont évolué. Il y a une rencontre de prévue avec l'archevêque de Marseille en juin, avec le docteur Pascal André, comme quoi il ne faut pas se décourager. Par la suite, nous sommes allés à Montpellier, où là, d'abord, nous avons été hébergés par le temple protestant qui se trouve sur le quartier de la Paillade. Et d'ailleurs, nous sommes passés aussi dans leur radio. Alors, excusez-moi, je ne me rappelle plus le nom de leur radio, mais en tout cas, on a été accueillis par leur radio. Et là, c'est organisé un petit peu à l'arrache, hein, une rencontre que la Claudia, la pasteure allemande, avait tenté de faire depuis, à différentes reprises depuis le 7 octobre et qu'elle n'avait pas réussi à faire. Là, les circonstances ont fait qu'on a réussi à rassembler un prêtre catholique, un imam, la pasteur qui était présente bien évidemment, et puis un rabbin d'une synagogue libérale, on va dire, réformée. Et donc il y a eu là 2 heures d'échanges fort intéressantes. Et ce qui était plutôt satisfaisant, c'était que ces personnes-là se sont promis en tout cas de continuer à se revoir. Ce qu'on a pu en tout cas noter de cet échange, c'est que, parce qu'on a interpellé les imams, l'imam qui était là avec un autre imam, sur le silence des musulmans en France sur la situation que vivent les Palestiniens. Et ils nous ont répondu à Montpellier, mais comme à Clermont-Ferrand, nous avons fait la même chose, qu'il leur était interdit de contextualiser la situation au sein des mosquées. Très clairement, ils ont une cible dans le dos. S'ils abordent la situation, ils vont être fichés S et sans doute reconduits à la frontière. Mais avec le soutien des autres cultes, et en l'occurrence là, il y avait donc un rabbin et une pasteur, le prêtre catholique, ça a été, on va dire, un peu plus compliqué. Hein. Il est parti beaucoup plus rapidement et je pense qu'il en était encore resté à des guerres de religion. Je pense qu'il a loupé quelques épisodes de l'histoire, quoi. Donc là, ça a été vraiment un temps assez fort et on espère en tout cas que ces rencontres vont pouvoir se poursuivre. Sur Montpellier, la culture n'a pas été très présente, là aussi. Sur Marseille, on avait quand même pourtant été accueillis dans un endroit alternatif, mais nous n'avons pas vu d'artistes. On était dans leurs locaux, mais les artistes n'étaient pas là. On s'est même rapproché dans le centre-ville, dans un lieu encore plus accessible. Et finalement, c'est nous qui sommes allés à la rencontre des gens sur une place pour pouvoir échanger avec eux sur la situation et sur le pourquoi de notre démarche.
Peut-être tu pourrais nous expliquer comment vous avez construit en fait votre cheminement pour qu'on puisse comprendre aussi. Peut-être les gens n'ont pas eu le temps de s'organiser aussi. Est-ce qu'il y a eu une organisation très rapide ?
Alors l'organisation, tu as raison, elle a été très rapide. Et c'est vrai qu'on a pu le constater. Plus on avançait dans le temps de notre chemin, et plus les choses étaient organisées. Donc à Marseille, je veux bien entendre que ça a été fait un petit peu à l'arrache. Enfin, les politiques, voilà, ils avaient la possibilité quand même de nous recevoir, ils ne l'ont pas fait. Au niveau du culte, Pascal André avait pris contact avec l'Église bien avant, en amont. Et le résultat, c'est qu'il y a quand même une rencontre au mois de juin, donc il faut quand même s'en satisfaire. Sur Montpellier, on a eu la possibilité d'intervenir à l'université Paul Valéry, je crois qu'elle s'appelle. Là, on a rencontré pas loin d'une centaine d'étudiants, très sensibles à la situation et à la démarche, puisqu'on a à cette occasion récupéré des jeûneurs solidaires. Je reviendrai sur la différence entre grévistes et jeûneurs solidaires. Mais effectivement, tu as raison, plus on est avancé dans le temps, et plus les choses étaient organisées. Puisque après Montpellier, nous sommes allés à Narbonne, mais très rapidement. De Narbonne, nous sommes allés à Toulouse. À Toulouse, c'est un passage qui a été assez remarqué, puisque nous sommes intervenus à la basilique Saint-Sernin. Et ça a été relayé quand même par Mediapart. Ça a été le seul média en France, qui assez important quand même, qui a relayé la démarche de fin de justice en Palestine. Et à Saint-Sernin, donc... nous avions décidé d'intervenir, et pas à n'importe quel moment, puisque Pascal André est catholique, croyant, et l'idée n'était pas de manquer de respect aux croyants. Donc on est intervenu à un moment où c'était possible, pendant la messe. Hein. Je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que moi je suis athée, et je ne connais pas bien les rites quand ça se passe dans les églises catholiques. Hein. Et là, on a été littéralement jetés de Saint-Sernin. Nous avons été accueillis par des jeunes d'extrême droite à la sortie de la basilique. Et le prêtre qui... je pense qu'il ne l'a pas fait, mais en tout cas, il a menacé Pascal André de porter plainte contre lui. Hein, parce que pour lui, c'était un acte criminel que d'intervenir, alors que Pascal, sa démarche était de... Moi, j'ai simulé un malaise dans l'église. Et il est intervenu en disant, il y a un malaise dans l'église. Donc, on a été viré assez rapidement. Il a essayé d'expliquer les choses. Le prêtre nous a rejoint un long moment et il s'est arrangé pour faire sortir les gens qui assistaient à la messe par une autre porte pour qu'on ne les rencontre pas. Et c'était un prêtre ukrainien. On aurait pensé, en tout cas on aurait aimé penser qu'il aurait été sensible à cette question-là, mais en tout cas c'était pas le cas.
Tu peux nous dire un petit peu comment, en fait, il s'est adressé à la communauté croyante à Toulouse, comment il les a abordés, hein?
Alors, il les a abordés en sortant le texte d'un diacre de Jérusalem. Et ce diacre de Jérusalem a écrit à l'Église catholique française, et ça n'a pas été répercuté. C'est-à-dire que beaucoup de croyants catholiques ne savent pas que ce diacre, ou peut-être que ce n'est pas diacre, excusez-moi si ce n'est pas le terme, mais en tout cas, il voulait vérifier que les gens étaient au courant quand même, que ce diacre de Jérusalem alertait le monde catholique, en France en tout cas, sur la situation des Palestiniens, et pas que des chrétiens palestiniens, des chrétiens d'Orient, des Palestiniens en général. Et vraiment, il avait choisi le moment pour intervenir, où c'est possible d'intervenir. Je crois que c'est le moment de la parole, où c'est possible d'intervenir. Donc, il n'a pas manqué de respect. Nous n'avons pas manqué de respect. Ce n'était pas l'objectif, en tout cas. En voulant ouvrir les lieux cultuels, on n'allait pas se permettre de manquer de respect au culte, quel qu'il soit, quoi. Donc, bon, il y a eu un échange assez long avec ce prêtre devant l'église, mais en tout cas, il n'a pas bougé sa position, si ce n'est qu'il souhaitait porter plainte contre Pascal André. À ce jour, je ne sais pas s'il l'a fait. Mais en tout cas, voilà, ça a été une des premières rencontres assez violentes quand même avec le culte, hein. En tout cas avec le culte catholique, mais aussi avec des croyants, je dirais, d'extrême droite, hein. Je ne l'invente pas, c'est un photographe qui nous suivait, qui nous a demandé de faire attention à nous, parce que les deux personnes en question étaient connues sur Toulouse pour être assez violents dans les manifs antifascistes, quoi. Donc, sur Toulouse, voilà, ça a été un temps fort à l'endroit du cultuel. En termes de culture, on a participé sur une place assez connue de Toulouse à une rencontre, à un rassemblement en fait d'intermittents du spectacle. Donc, on est allé à leur rencontre, on leur a expliqué notre démarche. On a été très étonnés qu'aucun ne vienne nous demander de quoi il s'agissait. Ils étaient là pour défendre leur statut, mais ils ne sont pas sortis de leur propre nombril. Ils ne se sont pas intéressés plus que ça à la question, qui, nous, en tout cas, nous préoccupe fortement. Mais on a quand même rencontré donc un journaliste de Mediapart. C'était la première rencontre avec un média assez important, puisque sur Marseille, FR3, quand même, s'était déplacé et a fait quand même une diffusion nationale, faut pas le noter. Et puis la Marseillaise. Mais si on veut parler des médias, tout au long de notre parcours, on a été reçus par des radios, Radio Galère de Marseille, dans un endroit vraiment alternatif, très intéressant. Et je disais tout à l'heure, la radio aussi protestante. Les médias locaux, on a vu la Marseillaise, on a eu l'Est républicain quand on était à Besançon, par exemple. On a eu La Dépêche, l'Ouest France. Mais en dehors de Mediapart, à aucun moment on a été interpellé par un média mainstream, comme on dit. Je passe quelques étapes, hein, sinon ça va être un peu long, mais en tout cas, sur Clermont-Ferrand, il s'est organisé en tout cas une rencontre interculturelle, hein, où se trouvaient là, du coup, une trentaine de personnes. Hein. C'était pas juste comme ça entre nous, hein, où il y avait de nombreux catholiques, hein, des gens de la libre pensée et des musulmans. Et là aussi, on a assisté à des échanges extrêmement intéressants, où je me rappelle de cette femme musulmane qui était d'ailleurs en larmes pendant cette rencontre, qui expliquait qu'elle ne comprenait pas le silence, hein, de toutes les églises en France face au drame que vivaient les Palestiniens au quotidien. Là encore une fois, l'imam nous a confirmé qu'avec la circulaire, je ne sais plus, parce qu'il y a deux circulaires, hein, il y a la circulaire Darmanin, je crois que par rapport au silence, en tout cas l'interdiction de contextualiser la situation. Et puis l'ancien ministre de la Justice, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que maintenant il fait du théâtre, alors bon, peu importe, qui aussi avait sacrément limité les libertés de parole depuis octobre 2023. Donc deux temps, je dirais, forts au niveau cultuel jusqu'à Besançon, et une des plus importantes, en tout cas pour moi, qui ne suis pas quelqu'un de croyant, ça a été celle de Strasbourg avec Monseigneur Stinger.
Juste, il faut que tu précises peut-être que ce mouvement, il est laïque.
Le mouvement est, effectivement, tu as raison, il est laïque. Alors, on ne peut pas dire apolitique, moi je pense que c'est politique, mais il est apartisan. Et on a choisi aussi de faire cette tournée sans étiquette. On ne portait pas de kéfier, par exemple, hein. Même si le kéfier aujourd'hui est reconnu même comme un patrimoine de la Palestine. Mais quand on sait combien le port de ce kéfier a fermé les portes à beaucoup de personnes, et pour éviter, même si on l'a été, pour éviter de se faire traiter aussi d'islamo-gauchiste. Donc on a fait ce choix-là, hein, d'être sans étiquette et sans kéfier, laïque et apartisan, parce que je pense quand même que c'était une démarche politique. Je revenais sur Strasbourg, où là on a rencontré Monseigneur Stinger, qui est l'ancien archevêque de Reims, un monsieur très très âgé d'ailleurs, qui d'ailleurs a contesté complètement la position du prêtre de Saint-Sernin, qui était très très touché par la situation. Je pense qu'on va être de nouveau en lien avec lui, parce qu'on l'a rencontré dans le vieux Strasbourg avec de nombreuses personnes. On n'a pas pu rencontrer de rabbin à Strasbourg, et pourtant il me semble que c'est à Strasbourg il y a la communauté juive la plus importante de France, il me semble. Mais en tout cas voilà, ça n'a pas été possible. Les lieux culturels ont été quand même très compliqués à ouvrir. Au Mans, on a pu aller dans un lieu qui s'appelle la Fonderie, qui est aussi un lieu de culture alternatif. Mais en tout cas, on a très peu eu d'endroits où on pouvait en tout cas interpeller le monde de la culture, qui s'est montré lui aussi extrêmement silencieux depuis octobre 2023. Et au fur et à mesure de nos étapes, par exemple, le docteur Ben Boutrib, dont je vous parlais, lui, nous a quittés à Bordeaux parce qu'il était sur la liste de médecins qui pouvaient rentrer dans Gaza. Finalement, à Amman, il a été refoulé. Et finalement, on a pensé que pour sa sécurité, c'était pas plus mal, parce que de toute façon, il aurait été ciblé comme il avait été médiatisé. Il a été très déçu. Nous, ça nous a rassurés, parce qu'on pense qu'il aurait été ciblé de toute façon. Ils nous ont rejoints aussi, comme ça, au fur et à mesure des étapes, Thierry, qui est brestois, parce que nous avons fait deux étapes. Nous sommes allés à Nantes et à Rennes, où là les gens sont extrêmement dynamiques aussi. Une militante de la FPS avait contacté FR3 Brest, et avant de se faire raccrocher au nez, elle s'est entendue dire que les Bretons s'en foutaient de la Palestine. Récemment, les Bretons et les Rennois sont allés devant FR3, les jeuneurs, mener une action pour montrer combien ils s'en foutaient pas, quoi. En tout cas, ils sont extrêmement dynamiques dans chacune des villes où ils sont. Et donc, Thierry, qui est ingénieur à la retraite, était venu nous voir, nous rencontrer à Brest. Et il nous avait dit, je vous rejoindrai à un moment donné. Et il nous a rejoints à Besançon.
Tu voudrais dire qu'il y a plusieurs jeuneurs, plusieurs grévistes maintenant, qui vous ont rejoints depuis votre petite équipe.
Ben, on est parti à quatre. On a perdu notre ami Khaled à Bordeaux, mais nous sommes passés par Besançon, où nous avons récupéré Mustapha, qui était jeuneur également, et nous avons récupéré le Brestois qui est venu à ce moment-là de Brest pour nous rejoindre à Clermont. Mais nous avons fait quand même une étape en Suisse, nous sommes allés à Genève, où nous avons été accueillis par Hervé, qui est metteur en scène, qui habite à la frontière, il habite à Ferney-Voltaire, donc il est français, mais il travaille beaucoup en Suisse, et il est d'autant plus sensible à la situation qu'il a travaillé avec le théâtre de Génine, il y a très longtemps. Et donc lui nous a rejoints. Il n'était pas en capacité de faire la grève de la faim pour des raisons de santé, et il a fait le choix de nous conduire, c'était sa participation. Et donc à partir de Genève, on était déjà trois. Quand on est arrivé à Besançon, nous étions cinq, et on a augmenté comme ça jusqu'à arriver à Bruxelles où nous étions une dizaine, quoi. Parce que nous avons récupéré aussi Strasbourg, Leïla de Strasbourg. Et au fur et à mesure, nous sommes allés à Lille aussi, où là, nous n'avons pas récupéré de jeuneurs, mais en tout cas, nous avons rencontré des gens, parce qu'il y a une association, où il y a un jumelage entre Lille et un village en Palestine, Naplouse, et on les a rencontrés à cette occasion. Nous avons fini notre parcours, et je vous le fais rapidement, parce qu'on pourrait en parler longtemps, à Bruxelles. Nous sommes arrivés le 23 avril à Bruxelles. Là, nous avons été rejoints par différents médecins de toute la France qui sont intervenus à Gaza. Des gens de Palmède, mais des gens de Rama aussi, d'autres associations solidaires ou humanitaires. Et nous avons été reçus au Parlement européen, à la Commission des droits de l'homme.
Peut-être peux-tu dire un mot de Palmède et pour les auditeurs.
Palmed, c'est une organisation non gouvernementale qui envoie des soignants, des médecins, des infirmières. Et notamment Pascal André est allé à Gaza avec Palmed. L'infirmière qui est assez connue, qui s'appelle Iman Marifi également. Mais voilà, il y a Palmed, mais il y a Rama que moi je ne connaissais pas, avec lequel Cathy de Brest est partie et espère repartir. Et donc là, nous étions une vingtaine à être reçus au Parlement. Alors, nous avons été reçus essentiellement par des députés de gauche, belges, français, néerlandais, allemands. Notre idée, c'était aussi quand même d'aller vers ceux qui ne pensent pas comme nous. Par exemple, on a rencontré Marc Bottenga du BTP, du Parti des Travailleurs Belges. J'ai pas eu l'impression qu'on a eu besoin beaucoup de le convaincre. Il est déjà très très investi, et pour le suivre sur les réseaux, on voit que régulièrement la question de la Palestine est amenée sur le tapis au Parlement, quoi.
Tu dis que vous avez été reçu par les députés de gauche. Est-ce que ça veut dire que tous les députés ont été invités et seuls les députés de gauche sont venus, ou est-ce qu'il y avait une invitation particulière d'un groupe de députés européens ?
Non, notre souhait était de rencontrer les députés européens, toute étiquette. Les seuls qui ont répondu, c'est bien évidemment, il y avait Rima Hassan pour LFI, il y avait un autre député écologiste français, et il y avait des gens du BTB, du Parti des Travailleurs Belges, mais aussi des députés néerlandaises, allemandes, de gauche. Les autres députés européens de droite ou du centre ont déclaré forfait ce jour-là. Je vous en parlerai plus tard, parce qu'on va être amené à les rencontrer dans les jours qui suivent. Là.
Et je voudrais te poser aussi une question par rapport aux internationaux. Vous avez rencontré des internationaux aussi, pas seulement des Européens. Je veux dire, par exemple, on voit que les Espagnols se sont engagés. Donc, est-ce que vous avez aussi rencontré d'autres...
Alors, on a... Merci pour ta question. On a rencontré le lendemain de la rencontre avec à la Commission des droits de l'homme au Parlement, on a rencontré la présidente du groupe socialiste au Parlement européen. Elle est espagnole. Et certes, elle rentrait... Depuis quelques jours, elle rentrait de Ramallah. Donc, elle était très sensible à la question. Et elle était intéressée par les échanges pour pouvoir, elle aussi, étayer son argumentaire en face de ses collègues qui sont quand même assez à distance de la question du sort des Palestiniens actuellement, quoi. Ça, c'est voilà, l'arrivée à Bruxelles. J'ai oublié une étape quand même assez importante, c'est qu'on a été quand même reçus au Sénat par le groupe écologiste. Bon, il n'y avait pas que d'ailleurs, il y avait aussi un sénateur communiste et un sénateur écologiste. Et il y avait aussi des gens, des médecins qui nous ont rejoints lors de cette rencontre. Il y a eu des échanges riches, même si on s'est un peu pris la tête avec la présidente du groupe socialiste, qui, elle, nous disait qu'ils allaient s'engager à organiser un voyage en septembre. Comme s'il n'y avait pas d'urgence là, tout de suite, là, maintenant, à réagir. Et s'il fallait attendre septembre, est-ce qu'il y aura encore des Palestiniens en septembre ? C'est ce qu'on lui a demandé. Mais voilà, en tout cas, on a eu cette chance-là d'être reçus au Sénat et à Sciences Po. On a rencontré les étudiants à Sciences Po, alors pas à l'intérieur de Sciences Po, pour ne pas les mettre en difficulté, parce qu'ils le sont quand même depuis un petit moment, en difficulté. On les a rencontrés dans la rue, on était dehors avec eux. Et on sait que depuis, il y a des jeuneurs solidaires dans les différentes Sciences Po. Alors, au niveau des jeunes étudiants, on a eu la chance de rencontrer des étudiants à Montpellier, des étudiants à Bordeaux. Ceux de Bordeaux étaient en blocus, parce que les moyens de l'université allaient être réduits au profit de l'armement. On peut comprendre pourquoi ils faisaient un blocus. Et on a rencontré aussi les étudiants à Rennes. Et pas mal d'étudiants de Sciences Po, dans chacune des universités. Donc, c'était assez intéressant d'échanger avec eux, mais en tout cas, ils ont été présents tout au long de... Les étudiants, on le sait bien, et on en parlera tout à l'heure, il y a pas mal d'universités dans le monde où les étudiants mènent des grèves de la faim pour attirer l'attention sur le sort de désastreux et la famine qui sévit depuis plus de 2 mois en Palestine. En tout cas, voilà, si on faisait un bilan un peu, on a rencontré énormément de personnes. Hein. Pendant tous ces 25 jours, on s'est arrêté quand même, on a fait des étapes de 2 jours, et on a pu rencontrer, et pas que des militants, bien sûr qu'il y avait des militants, ils étaient au rendez-vous, et c'est bien souvent eux qui organisaient notre arrivée, mais on a pu échanger avec des personnes qui s'arrêtaient. Quand on tenait un bout d'une rue piétonne à Nantes ou au Mans, nous sommes passés au Mans. En tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a au Mans, à Clermont et à Lyon, on a rencontré des Palestiniens qui n'étaient pas là depuis très longtemps, pour la plupart depuis les événements d'octobre. Et à chaque fois, il était important pour nous de leur donner la parole avant tout. Donc, au Mans, c'est une jeune femme qui a pris la parole, et c'était la première fois qu'elle prenait la parole en France. Il y avait heureusement une dame qui traduisait ses propos. À Clermont-Ferrand, c'était un journaliste palestinien qui s'exprimait très bien en français, qui était là avec sa femme et qui lui avait perdu tous ses enfants. Et à Lyon, on a rencontré d'autres Palestiniens qui, à ce moment de notre parcours à Lyon, commençaient à être un peu fatigués, et le docteur Pascal André avait encore commencé à avoir un peu de mal à marcher. Et c'est des Palestiniens qui l'ont soutenu pour marcher, pour arriver jusqu'à la voiture. Symboliquement, quand même, c'était assez fort, parce qu'on faisait cette démarche pour eux, et finalement, c'est eux qui venaient aider et nous soutenir, quoi. Comme je vous le disais, les médias, ils ont été assez absents. Je parle des médias mainstream, les médias locaux ont fait leur boulot. Mediapart a fait son boulot, les radios locales aussi. Au niveau culturel, les portes se sont ouvertes et on espère que les gens continuent à se voir. Après, dans l'après-coup, il y a d'autres choses qui vont arriver, j'en parlerai tout à l'heure. Le monde culturel a été quand même particulièrement silencieux. Hervé, qui nous accompagnait, qui était symboliquement celui qui représentait la culture, a poussé de sérieux coups de gueule dans toutes les villes où on est passé.
Il a un discours peut-être intéressant, tu peux peut-être en dire un mot.
Hervé, lui, il est metteur en scène, donc il est très à l'aise dans la prise de parole. Et quand il a fait son intervention à la Commission européenne, en tout cas à la Commission des droits de l'homme, à la Commission européenne, dans l'après-coup, les députés lui ont demandé son texte, parce qu'il était tellement puissant. Mais quand on a quitté Strasbourg pour Paris, nous avons été accueillis par Europalestine. Et dans la manif, on est passé à Beaubourg, quand même un haut lieu symbolique de la culture française. Et là, il a fait un discours qui a traversé tous les réseaux et je pense qu'a traversé les frontières. Voilà, la question des médias, je pense que voilà. En tout cas, les médias belges étaient plus présents. On a à différentes étapes rencontré Al Jazeera. Parfois, ça a été le seul média, notamment à Toulouse. Ça a été le seul média. On les a retrouvés à Bruxelles, avec d'autres médias. Et je pense que les médias belges se sont fait un plaisir d'intervenir pour montrer la défaillance des médias français. Au jour d'aujourd'hui, les personnes qui s'étaient engagées dans cette grève de la faim ont recommencé à manger à partir du 25e jour à Bruxelles. Nous avons rencontré notamment Omar, un journaliste palestinien qui, lui, en 2024, avait fait 2 mois de grève de la faim, 60 jours, jusqu'à être en danger pour sa santé. Et nous sommes en train de travailler sur la deuxième phase du mouvement, puisque nous nous sommes rendus compte que des mouvements similaires se développaient dans toute l'Europe et également aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. Donc là, dans cette deuxième phase, on est en train d'essayer de trouver des manières de fonctionner communes pour pouvoir étendre ce mouvement. Il y a des Belges, certes, et les Belges, notamment les fonctionnaires du Parlement européen, tous les jeudis font un rassemblement pour attirer l'attention. Et ils font un jeûne, mais dans le restaurant du Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils vont à la cantine avec leur plateau vide et avec des affiches qui montrent la situation des enfants affamés de Gaza. Mais on a des contacts avec des gens de Hollande, d'Allemagne. La députée allemande de gauche était venue nous interpeller en nous disant qu'elle savait que ça commençait aussi à se mettre en place en Allemagne. En Espagne, j'ai pas connaissance, mais en tout cas, ça existe aussi. Et aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, des mouvements se montent de manière similaire. Avec Pascal André et puis avec un certain nombre des grévistes et des jeûneurs, nous serons reçus demain. Nous partons pour Bruxelles et nous serons reçus par des députés européens qui ne sont pas de la gauche, qui sont de la droite ou du centre, et d'autres responsables aussi au niveau des commissions qui concernent les questions qui concernent le Moyen-Orient. Mais on ne sera pas seul, ce ne sera pas un mouvement français, ce sera un mouvement européen. Je pense qu'on est une vingtaine et il n'y aura pas que des Français, il y aura des Belges, il y aura des Allemands, il y aura des Hollandais sans doute.
Je voudrais te demander, qu'est-ce que tu penses de ce que disent les dirigeants français, britanniques et canadiens quand ils disent qu'on ne restera pas les bras croisés par rapport à la Palestine? Ils disent qu'ils vont faire une action pour que le gouvernement de Netanyahou s'arrête, quoi. La situation scandaleuse à Gaza s'arrête.
Ben, moi, je te dirais que j'attends de voir, parce qu'ils l'ont déjà dit. Ils l'ont déjà dit. Il y a un communiqué qui est sorti hier, mais c'est que du blabla. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de proposition concrète. Monsieur Macron pense que c'est aux historiens de décider si c'est un génocide, alors que ça relève du droit. Les historiens, leur boulot, ça va être de contextualiser le génocide et pas de le définir. Donc moi, j'en pense rien, je demande à voir. Pour le moment, on n'a pas vu grand-chose, en tout cas.
Le mouvement Fin de justice, c'est des mots qui sont forts et qui sont en solidarité, bien sûr, avec la situation à Gaza. Avait donc un objectif qui me paraît, enfin qui moi m'interroge beaucoup par rapport à nos rassemblements hebdomadaires, c'est d'ouvrir des lieux, enfin d'arriver à parvenir dans des lieux de silence. Des lieux où en fait on trouve des gens qui n'ont pas qui ne sont pas sensibilisés ou qui n'ont pas la connaissance de l'histoire et qui en fait du coup ne savent pas trop quoi penser en fait finalement de ce génocide. Et donc est-ce que vous avez pu discuter avec des gens comme ça?
On en a rencontré pas autant qu'on aurait voulu, honnêtement. On en a rencontré. On en a rencontré aussi qui nous ont insultés, mais comme on connaît aussi Amiot, hein, et qui nous renvoient toujours au 7 octobre et aux otages. Mais ça, on en a toujours parlé, de ça. Mais pas autant qu'on aurait voulu. Mais en ouvrant les lieux, notamment, je pense que si les lieux culturels... Ce qui s'est passé à Saint-Sernin est quand même assez parlant. On s'est fait virer quand même par un prêtre, mais en même temps, on était attendu par des paroissiens, et c'était pas des gentils paroissiens. Donc si les lieux, celui-là, la basilique de Saint-Sernin, elle est magnifique, hein, elle est très belle. Si celui-là est déjà fermé, les gens qui y vont, en tout cas, le discours ambiant qu'ils entendent ne leur donne pas forcément envie d'aller voir ailleurs. J'ai plus envie de m'appuyer sur l'expérience de Montpellier et de Clermont-Ferrand, où les gens se sont rencontrés et se sont dit qu'ils allaient continuer à se voir. Et là, du coup, effectivement, ça va permettre de toucher des gens qu'on ne touche pas habituellement dans les rassemblements, quoi.
Donc en fait, c'est quand même favoriser des rencontres. Les gens de l'église de Saint-Sernin l'ont vécu comme une agression,
pas tous les paroissiens. Il y a des gens si le prêtre les a fait sortir de très très loin, certains sont revenus vers nous et nous ont dit qu'ils nous soutenaient dans notre démarche.
On le voyait bien dans la vidéo.
Il y a des gens qui ont applaudi, etc. Mais bon, c'était...
Mais d'après toi, quelles sont les conditions qui permettent cette rencontre?
Ben, moi, je pense que déjà, si les gens n'étaient pas biberonnés 24-24 à des informations qui invisibilisent la situation des Palestiniens, qui criminalisent ceux qui les soutiennent, déjà là, il y aurait une part du boulot qui serait faite quand même. Alors, je pense pas que ça se fera comme ça du jour au lendemain. Mais là, j'observe depuis quelques temps, depuis quelques jours, et je pense que vous aussi, que voilà, sur des chaînes d'infos publiques, ils prennent un peu plus de temps, ils arrivent à utiliser le terme génocide. La famine, pour eux, n'est pas une action diplomatique, comme l'a déclaré Netanyahou. C'est faire rentrer 5 camions, quand on sait qu'il y en a une centaine qui sont bloqués depuis de nombreux mois, c'est je ne sais même pas comment on peut qualifier ça, c'est une perversité innommable. Moi, je pense que nos politiques et les médias ont une responsabilité grande, mais un jour, ils auront des comptes à rendre. Le droit international et humanitaire, il est incontournable, il s'applique à tout le monde. La France a signé la Convention sur le génocide, et donc la personne qui préside notre pays et qui représente la France, un jour, aura des comptes à rendre sur la non-application du droit, sur la non-application aussi des mandats d'arrêt, etc., etc. Mais en attendant, les médias mainstream, et on sait un peu comme ils vont mal en France, participent de cette invisibilité, de ce brouillage, de ce brouillage. Donc là, comme je vous le disais, on est dans cette phase 2. Quand on me demandait la différence au tout début du mouvement entre jeuneur et gréviste de la faim, j'avais pour habitude de dire que c'était comme pour un CDD et un CDI. Quoi. Les jeuneurs étaient en CDD, ils avaient décidé d'une date, voilà, et les grévistes n'avaient pas mis de date. Nous, on s'était dit qu'il fallait qu'on tienne jusqu'à Genève, jusqu'à Bruxelles, et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, pour être un petit peu en harmonie avec nos amis européens, on est arrivé à une espèce de consensus où, en fait, jusqu'à 9 jours, on sera considéré comme jeuneur. Et quand je dis 9 jours, ça peut être quelqu'un qui décide de faire 2 jours par semaine, qui décide de faire 3 jours par semaine pendant plusieurs semaines. C'est à la personne de gérer le rythme de son jeûne. À partir de 10 jours, on rentre dans ce qu'on appelle la grève de la faim. Et ça, c'est pour être en harmonie avec nos camarades européens.
Et pour cela, on s'inscrit aussi.
Oui, on a... Même si voilà, la communication, c'est très important, mais nous, on a démarré un peu à l'arrache et on ne travaille qu'avec des gens qui sont bénévoles. Donc, des fois, c'est un peu compliqué d'être complètement au taquet. Mais on a un site internet qui s'appelle https://hungry-justice-palestine.org. Là, on a beaucoup d'informations. On retrouve tous les audios qui ont été faits pendant tout le trajet. Pascal André, qui est aussi bénévole à Radio Sainte-Afrique, a interviewé des gens pendant tout le trajet. Et ça pouvait être des gens qu'on rencontrait dans la rue, des gens qui nous ont conduits d'une étape à une autre. Ça pouvait être des politiques quand ils acceptaient de parler. Donc vraiment, il y a pas mal de choses. Mais il y a aussi une carte interactive et qui montre un petit peu le mouvement de jeuneurs et de grévistes sur toute la France. On y trouve aussi pas mal de vidéos, etc. Il y a un site Instagram.
Donc on mettra ces sites-là sur le site de Radio Larzac. Comme ça, vous pourrez retrouver en fait toutes les informations qu'Amina donc, vient d'évoquer.
Mais il y a le site de la cagnotte qui est importante, la cagnotte de soutien, qui sera donnée aussi sur notre site Histoire de Palestine à Radio Larzac.
Oui, parce que au début, avant que ça se mette en place, les jeuneurs, moi je les ai réceptionnés au fur et à mesure. C'est moi qui les ai rencontrés, ou par téléphone, ou de visu. Parce que à Marseille, on a récupéré des grévistes et des jeuneurs au fur et à mesure des étapes. Maintenant, les gens peuvent s'inscrire directement sur un Google Form à partir d'un QR code. Le questionnaire va être modifié là, dans les jours qui viennent, pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Et ça nous permet d'avoir une vision un peu sur le nombre de jeûneurs dans toute la France.
Donc là, tu en es à combien de jeûneurs, hein?
Alors, il y a plus de jeûneurs que de grévistes, et ça, on peut le comprendre. Nous, en plus, on était dans une action, on bougeait, et on était ensemble. Faire la grève de la faim seule, c'est quand même pas une démarche facile. Mais on est autour de 200 personnes, tout compris. Et je parle que de la France, même si on a des Belges qui se sont inscrits, même s'il y a un monsieur de Beyrouth qui s'est inscrit, même s'il y a des Allemands, des Hollandais. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils rejoindront leur groupe dans chacun des pays. Quoi.
Est-ce que je peux dire que le collectif Palestine 12, à Millau, propose aux personnes qui le veulent de se joindre en groupe à Faim et Justice pour la Palestine? C'est-à-dire qu'on peut se grouper tous les mercredis, place de la Capelle, de 18h à 19h, afin de rendre visible cette démarche et afin aussi d'être plus fort en étant ensemble.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est proposé, c'est que les gens jeûnent chez eux,
individuellement,
mais se retrouvent en fin de journée ensemble pour partager un petit peu l'expérience et puis des informations entre nous. Mmh. Et que de toute façon, on garde aussi les rassemblements hebdomadaires du samedi à 10h30. Donc c'est une action supplémentaire de solidarité qui renvoie aussi à une démarche un peu personnelle, qui permet aussi, en fait, comme l'a dit Amina au début, d'évacuer aussi, en fait, des grandes colères qu'on peut individuelles. Hein,
et moi, je peux dire, hein, parce que moi, j'ai jamais fait la grève de la faim. Hein, c'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. Je l'ai très, très bien vécu, hein, physiquement, enfin, psychologiquement. Et moi, ça m'a sacrément apaisé.
Voilà.
Ça m'a sacrément apaisé par rapport à cette colère que je sentais monter, peut-être se transformer en violence, quoi. Donc ça a été très bénéfique. Et l'idée n'était pas de se mettre en danger, hein. On a fait un bilan médical à Rennes, on en a refait un à Besançon, on n'est pas kamikaze. Et en plus, on était avec des médecins, donc Pascal André ne nous aurait pas laissé dépérir non plus. Mais c'était important de... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a apporté un apaisement. Ça ne veut pas dire que les choses sont réglées, mais j'ai trouvé le mode d'action qui, moi, en tout cas, me convenait. Nicole parlait de Millau et moi je travaille sur un peu toute la France pour voir un petit peu comment ça s'organise. Pour avoir une idée comme ça, j'ai pas amené les chiffres, mais il y a pas loin d'une cinquantaine grévistes jeuneurs sur Paris, région parisienne. Donc là, on va voir un petit peu pour qu'il y ait quand même des ambassadeurs ou des correspondants. En Bretagne, quand je dis Bretagne, je comprends Nantes, Brest, Rennes, etc. Ils sont pas loin de 25 à mon avis. Alors, je pense qu'on sous-estime les chiffres parce qu'il y a des gens qui se sont engagés dans un jeûne ou une grève de la faim sans s'inscrire sur le site. C'est dommage parce que du coup, on n'arrive pas à le visibiliser. Et c'est dommage aussi parce qu'on peut donner des conseils sur l'entrée dans le jeûne. C'est pas parce qu'on rentre pas dans le jeûne et dans la grève de la faim n'importe comment, il y a quand même une descente alimentaire à préparer. On s'est vitaminé pendant tout le trajet, et pas juste de la vitamine C. Moi, il y a des vitamines que je connaissais même pas, mais ce qui fait qu'on s'en est pas mal sorti, c'est qu'on a été quand même vitaminé et dans de bonnes conditions. Mais voilà, à Marseille, il y a un groupe aussi, à Rennes, et chacun trouve son mode d'action. À Rennes, par exemple, ils nous ont expliqué qu'ils jeûnaient tous le jour où ils menaient une action précise. Donc quand ils vont devant FR3 par exemple Rennes, quand ils vont devant un consulat ou une ambassade israélienne, voilà, ils sont tous en situation de jeûner.
Alors moi je crois que c'est peut-être important de bien préciser qu'on est tout à fait conscient que si c'est un mouvement de solidarité avec les Palestiniens, on est bien conscient que ça n'a rien à voir avec la famine qui a lieu à Gaza. Ah,
bien sûr.
Et que ce qui se passe en Palestine et ce que vivent les Palestiniens est un crime contre l'humanité. Mmh. Et que c'est une solidarité, mais que vraiment, on ne peut pas concevoir en fait la situation en fait de Gaza.
Très clairement, comme je le disais, nous on a fait ce choix-là et on n'est pas contraint.
Et vous êtes en bonne forme.
Et on est parti en bonne forme. Et on a fait ce choix parce que c'était le mode d'action. Parce que la grève de la faim, c'est pas nous qui l'avons inventé. Je veux dire, il y a eu des mouvements de grève de la faim au moment de la guerre du Vietnam. Gandhi, c'est aussi un mode d'action qu'il a utilisé. Et Nelson Mandela également. Ce qui s'est passé aussi à Srebrenica, j'arrive jamais à le dire. Il y a eu aussi beaucoup de grévistes de la faim. Donc c'est un mode d'action non violent. Mais on n'est pas dans la situation de gens qu'on a affamés. On est très au clair par rapport à ça.
Hein. C'est un peu un jeûne de luxe, on pourrait dire. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tous les cas. Parce qu'on sait que ce soir, on aura à manger. Et que hier, on avait à manger. Mais c'est une solidarité.
Et puis, c'est un mode d'action non violent. Donc, on ne peut pas nous reprocher de nous mettre sur une place en étant jeûneur ou gréviste. On n'exprime pas de violence à l'égard des uns et des autres.
Voilà, concernant donc Millau, en fait, on a commencé la semaine dernière avec un petit groupe, mais quand même qui a réuni le mercredi soir. Donc il n'y a pas que les jeûneurs qui en fait se réunissent, il y a tous les gens qui veulent les soutenir et veulent partager. Donc il y avait une groupe d'une dizaine de personnes. Bon, on espère que ce mouvement va pouvoir justement répondre aussi au fait de rentrer en rencontre avec des gens qui, politiquement, ne sont pas forcément sur la même base que nous. Et que donc c'est un petit peu ça qu'on cherche aussi, en fait. C'est une rencontre avec les gens. Quoi. Voilà.
Mais c'est ça, enfin, moi je me rappelle, tout au long du trajet, il y a des gens qui n'avaient jamais fait de jeûne et qui sont venus dire que finalement, ils y pensaient depuis très très longtemps. On a rencontré Jean-Paul à Nantes, et Jean-Paul, il disait que ça faisait très très longtemps qu'il voulait faire la grève de la faim, mais que voilà, il était seul, etc., et que du coup, ça lui avait donné l'impulsion. Plein plein de gens disaient que c'était le mode d'action auquel ils avaient pensé, mais que voilà, seul, c'est compliqué à faire, quoi. Et qu'il faut se retrouver quand même dans des groupes. C'est pour ça qu'on organise un peu, en France, un peu partout, des groupes, pour que les gens ne se sentent pas seuls pour jeûner ou pour faire la grève.
Donc c'est une façon de rendre visible ce que tant le gouvernement israélien d'invisibiliser, mais il s'y prend mal justement, puisqu'il y a des rassemblements partout
dans le monde. Ils sont de plus en plus importants. Et puis là, en ayant déclaré très clairement qu'il laissait passer 5 camions, pas par humanité, mais par diplomatie, là, je pense que... Moi, j'attends de voir le Canada, tout ça, ce qu'ils disent. Mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
Et Amina, tu peux peut-être nous préciser le contenu des camions.
Sur les 5 derniers camions qui ont réussi à passer la frontière, 2 étaient pleins de linceuls.
À la radio, on disait que c'était des choses pour les bébés.
C'est des linceuls.
Merci Amina, merci Nicole,
merci
Nicolas, merci à vous pour l'enregistrement de cette émission. On reviendra vers vous, donc en fait on vous rappelle qu'en fait on se retrouve tous les samedis, 10h30, place de la Capelle, pour un rassemblement thématique où on essaye de en fait, reprendre des textes dans des sites et donner la parole d'abord aux Palestiniens. À bientôt.
Au revoir. Thank you.